Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Estación Catalunya. Bonjour à tous. Journée de mobilisation et de grève générale en Catalogne après les violences policières qui ont accompagné la tenue du référendum sur l'indépendance. Musées, universités, transports, commerces et même le club du Barça sont aujourd'hui à l'arrêt. Parmi les grévistes, on compte bien sûr les partisans de l'indépendance, mais pas seulement. Beaucoup de citoyens veulent surtout dénoncer la manière violente dont Madrid a géré cette crise. Écoutez ces habitants qu'a rencontrés sur place Diane Cambon.
Que ce soit sur les remplaces de Barcelone, devant les bâtiments officiels ou dans les écoles, la mobilisation des citoyens est aujourd'hui visible dans toute la Catalogne. Les Catalans ont répondu massivement à l'appel du gouvernement régional et d'une quarantaine d'organisations sociales. Aucun message direct en faveur de l'indépendance n'a été prononcé. L'objectif est de défendre la démocratie et de dénoncer les violences des forces de l'ordre le jour du référendum. Martha, une infirmière, explique pourquoi elle s'est jointe à ce mouvement de protestation.
On est venu pour dénoncer tout ce qui s'est passé avec la garde civile. La seule chose que l'on voulait, c'était aller voter, peu importe si c'était pour le oui ou le non à l'indépendance. Aujourd'hui, tout le monde doit descendre dans la rue, cesser son travail pour protester. C'est vraiment triste toute cette situation, c'est incroyable.
Parmi les manifestants, des Catalans de tous bords politiques, comme le souligne Paula.
Nous sommes une société plurielle, il y a des gens qui en ont assez de la situation et qui veulent l'indépendance, d'autres qui sont indépendantistes de père en fils, et d'autres qui veulent juste une relation différente avec l'État. Mais on est tous d'accord pour dire basta à une oppression policière. Nous sommes un peuple ouvert en Catalogne.
Cette nouvelle démonstration de force de la société catalane s'adresse au gouvernement de Madrid, mais aussi à la communauté internationale. Le leader catalan espère convaincre Bruxelles d'une médiation dans le conflit avec Madrid.
Et pendant ce temps, Bruxelles est enfin sortie de son silence. Laxmilota, vous êtes justement à Bruxelles. Jusque-là, l'institution s'était contentée de répéter qu'il s'agissait des affaires intérieures de l'Espagne et qu'il n'était pas question de s'en mêler. Mais après les violences policières de dimanche, l'UE est sortie de sa réserve, déclarant qu'il fallait aller de la confrontation au dialogue.
Oui, des propos qui restent mesurés, prudents. Le référendum est illégal, a répété l'institution. Dans sa déclaration, le porte-parole de la Commission européenne ne condamne pas directement les violences policières, mais indique « la violence ne saurait être utilisée comme instrument en politique ». Réaction trop distante, ce n'est pas suffisant, dit le représentant permanent du gouvernement catalan auprès de l'Union européenne, Amadeu Altafaje.
Ma réaction, mais aussi celle de beaucoup de citoyens catalans aujourd'hui, qui ont suivi même en direct la conférence de presse de la Commission européenne, ce qui n'arrive pas souvent, et d'une certaine déception, surtout parce que, par exemple, il n'y a pas eu même pas une mention des 893 victimes, personnes blessées hier dans les attaques de la police espagnole dans les centres de vote. Donc au moins cette référence, je dirais même au niveau humain, aurait été appréciée.
En fait, Laxmi, pour le gouvernement catalan et sa représentation à Bruxelles, l'Union européenne doit s'impliquer.
La Commission est gardienne des traités, elle doit protéger les citoyens, dit Amadeu Altafaje. La Catalogne appelle à une médiation internationale, un rôle que l'UE pourrait jouer.
Ça pourrait éventuellement être un rôle de médiateur. Nous sommes d'ailleurs tout à fait ouverts à une médiation internationale, mais il n'y a pas de médiation si les deux parties, bien sûr, ne sont pas disposées à l'accepter et même à faire cet appel. Pour l'instant, nous sommes les seuls.
Mais pour l'instant, la Commission européenne ne souhaite pas du tout s'engager dans cette voie, Laxmi.
La Commission n'a pas de rôle à jouer à ce stade, indique le porte-parole Margaritis Skinas. Il a aussi rappelé une règle, la Catalogne se retrouvera hors de l'Union européenne si elle se déclare indépendante. Il faudra passer par une demande d'adhésion à l'UE. Le Parlement européen, en session cette semaine, a lui décidé de parler de la Catalogne. Sur proposition de trois des principaux groupes politiques, un débat va être organisé ce mercredi après-midi avec ce thème « Constitution, état de droit et droits fondamentaux en Espagne à la lumière des récents événements en Catalogne.
Merci Laxmi Lota à Bruxelles. Depuis dimanche, le voile islamique intégral est interdit sur la voie publique en Autriche, une loi directement inspirée par la France, mais qui a été écrite à la hâte, avec en toile de fond la campagne électorale. Les élections législatives sont prévues dans 2 semaines et les débats contre l'islam radical se multiplient. À Vienne, Céline Béal a suivi une manifestation organisée par les opposants à cette nouvelle loi.
Ce sont des clowns qui mènent la manifestation contre la nouvelle loi interdisant de se couvrir le visage dans les lieux publics. En effet, pour ne pas tomber dans la discrimination religieuse, le gouvernement a fait de son projet de loi anti-burqa un texte plus général qui interdit aussi, selon les circonstances, de porter tout accessoire dissimulant le visage. Masque chirurgical, cache-nez et maquillage de clown y compris. L'organisateur de la manifestation, Klaus Werner Lobo, n'est pas dupe. Les motivations sont clairement politiques.
Le but de la loi, c'est de dire aux femmes ce qu'elles ont le droit de porter ou non. Et bien sûr, le réel objectif, c'est de jouer sur les tendances populistes, nationalistes, racistes et islamophobes pour les utiliser dans la campagne électorale.
Selon cet activiste et ancien député écologiste, la nouvelle législation portée par les partis sociaux-démocrates et conservateurs ne peut être que symbolique, puisque seule une poignée de résidentes autrichiennes portent en réalité la burqa ou le niqab. Mais ses conséquences seront de toute façon néfastes.
Personne ne trouve ça bien que des femmes soient forcées de se voiler, personne. Mais on ne résout pas le problème en punissant ces femmes une seconde fois.
C'est ce que dit aussi Radija, qui est venue à la manifestation voilée de noir de la tête aux pieds.
Les personnes qui sont vraiment concernées et qui n'ont aucune mauvaise intention, on les met à l'écart et on sous-entend qu'il faut qu'elles se débrouillent autrement.
Musulmane convertie, la jeune fille explique qu'elle devrait avoir le droit de choisir ses pratiques religieuses, sans que ses concitoyens se sentent menacés.
Les principes de l'islam non dévoyé ne représentent un danger pour personne, même si on se cache le visage ou même les yeux.
Au-delà de savoir si une interdiction est la meilleure solution pour lutter contre une idéologie radicale, c'est le flou absurde du texte de loi qui frappe les esprits. Autant dire que sa rédaction et son vote rapide poursuivent un autre objectif à 2 semaines des législatives, donner aux sociaux-démocrates et aux conservateurs une image énergique sur un sujet qui préoccupe les Autrichiens, celui de l'intégration.
En Hongrie, le milliardaire américain d'origine hongroise, George Soros, est plus que jamais la bête noire du premier ministre nationaliste Viktor Orban, l'homme d'affaires qui finance des ONG défendant les droits de l'homme et la cible d'attaques répétées du gouvernement hongrois. Pour en parler, on retrouve Florence Labruyère à Budapest. Cette fois, Viktor Orban accuse Soros d'avoir un plan pour faire venir 1 million de migrants par an en Europe et de vouloir imposer ce plan à la Commission européenne.
Oui, et le gouvernement veut consulter les Hongrois sur ce plan qu'il attribue à l'homme d'affaires. Alors les Hongrois vont recevoir un formulaire par la poste. C'est une liste en 7 points sur laquelle on lit par exemple « Selon le plan de George Soros, Bruxelles va demander à tous les États membres de verser 27 000 euros à chaque migrant ». On y lit encore « George Soros veut favoriser l'intégration des immigrants afin de détruire les langues et les cultures européennes ». Et à chaque fois, eh bien, on peut cocher la case « oui, je suis d'accord » ou « non, je ne suis pas d'accord ».
Mais Florence, est-ce que le financier américain aurait vraiment un plan ?
Non, il n'existe pas. Comme tout intellectuel qui prend part au débat public, George Soros écrit des articles et prononce des discours. Alors, c'est vrai qu'il a plaidé pour une politique d'accueil des réfugiés plus humaine, mais ce sont de simples propositions et il n'a aucun pouvoir sur la Commission et le Parlement européen. D'ailleurs, dans un article, il a écrit que les pays européens devraient protéger et renforcer leurs frontières. Or, dans ce questionnaire, le gouvernement hongrois lui fait dire le contraire. Il déforme donc totalement les propos de l'homme d'affaires.
Florence, c'est la 3e consultation nationale depuis 2015 sur le même thème de la migration. Est-ce que les Hongrois ne sont pas lassés d'entendre toujours la même rengaine, d'autant que ces consultations n'ont aucun poids juridique ?
Eh bien écoutez, certains Hongrois sont un peu saturés par cette rengaine, mais une bonne partie de la population croit à cette propagande. Si le parti de Viktor Orban continue à marteler ce thème des migrants qui sont tous des terroristes et qui seraient tous porteurs de maladies, eh bien c'est parce que le parti en tire des bénéfices. À 6 mois des élections, il mène largement dans les sondages. Attiser la haine et la peur des migrants, ça permet de fédérer les sympathisants de la droite, de les garder mobilisés, et ça permet aussi d'attirer éventuellement des électeurs de gauche et d'extrême droite.
Merci Florence Labruyère à Budapest. L'état d'urgence en Turquie après le putsch manqué de l'été 2016, les purges massives dans la fonction publique, les attentats, tout cela pèse-t-il sur la santé mentale des citoyens turcs? C'est en tout cas ce que croit une députée d'opposition qui a demandé au gouvernement des chiffres sur l'état psychologique de ses concitoyens. Les premiers résultats semblent lui donner raison. C'est le reportage à Istanbul d'Anand Lawar.
Le 7 juin 2016, Mehmet Cemil Ozansu se rend au travail lorsqu'une voiture explose à quelques mètres de son taxi. Cet enseignant échappe de peu à ce qu'on appelle désormais l'attentat de Vezneciler dans le vieil Istanbul. 11 personnes sont tuées, 36 blessées dans cette attaque revendiquée par les séparatistes kurdes. La sixième dans cette ville en à peine une année. Quelques jours plus tard, Mehmet Cemil Ozansu commence les antidépresseurs.
J'ai échappé à la mort à 2 ou 3 secondes près, mais j'ai vécu un traumatisme. J'ai senti le souffle de la bombe dans tout mon corps. La voiture a failli se retourner. Pendant l'été, j'étais très mal, d'où les médicaments.
Un mois après cet attentat, la Turquie a subi une tentative de coup d'État. Autre épisode violent, autre traumatisme national. Mais au lieu de souder le pays, le pouvoir s'est lancé dans une chasse aux sorcières contre ses opposants, sous couvert de lutte contre les putschistes. Au moins 145 000 fonctionnaires ont été limogés, dont Mehmet Cemil Ozansu, qui enseignait l'histoire du droit à l'université d'Istanbul.
Si j'étais mort dans le taxi, je serais devenu un martyr. Et 4 mois plus tard, je suis devenu terroriste. Mais au lieu de doubler ma dose d'antidépresseurs, je les ai arrêtés net. Je me suis dit que ça suffisait. On ne peut pas vivre sous traitement.
Mehmet Cemil s'est sevré, mais les pilules qu'il a prises pendant plus de 4 mois sont entrées dans les statistiques. Et ces dernières sont inquiétantes. Entre 2011 et 2016, la consommation d'antidépresseurs a augmenté de plus de 25% en Turquie. Aylin Nazlıaka, une députée d'opposition qui a obtenu ces chiffres du gouvernement, n'a aucun doute sur leur cause.
La répression politique, les attentats, les problèmes économiques ou encore les efforts du pouvoir pour uniformiser la société et les modes de vie affectent psychologiquement des millions de Turcs et créent des traumatismes dans la société. La précarité grandit, une famille sur 8 en Turquie dépend des aides sociales pour vivre. Un jeune sur 4 est au chômage et cela ne cesse d'augmenter. Notre pays est en dépression.
Sibel Çakır, psychiatre à l'hôpital universitaire d'Istanbul, préfère être prudente quand on lui soumet les mêmes chiffres.
On ne peut pas dire que la santé mentale ne se dégrade pas de manière générale. Il se peut tout à fait que ce soit le cas, mais la hausse de la consommation d'antidépresseurs peut aussi s'expliquer par le fait que le nombre de psychiatres augmente et que ces derniers prescrivent de plus en plus de médicaments. Par ailleurs, 50% des antidépresseurs ne sont pas prescrits par des psychiatres, mais par d'autres médecins. Or, ceux-ci ont tendance à donner des antidépresseurs pour soigner l'anxiété ou même des maux de tête, plutôt que de conseiller une psychothérapie ou d'autres remèdes de long terme.
Mais il n'y a pas que les antidépresseurs. Le nombre de consultations pour des problèmes psychologiques ou psychiatriques a aussi beaucoup augmenté. 7,9 millions en 2015, 8,7 millions en 2016 et 3,2 millions pour les 4 premiers mois de cette année. Là encore, la psychiatre Sibel Çakır ne nie pas qu'il y ait un problème, mais elle demande d'autres données.
Il est difficile de pointer vers un seul facteur. Ça peut être dû à l'augmentation du nombre de médecins et de centres de soins. Il y a peut-être aussi le fait que la stigmatisation des gens qui consultent pour des problèmes psy tend à s'atténuer dans une société fermée et patriarcale où cela a longtemps été vu comme un signe de faiblesse. Pour dire que les problèmes psychologiques sont de plus en plus fréquents, il nous faudrait des études épidémiologiques sur plusieurs années. Nous n'en avons pas.
Il y a les études manquantes, il y a aussi l'intuition. Les observations d'une professionnelle forcée de constater que les statistiques augmentent vite et surtout qui voit passer dans son cabinet des centaines de patients. Quand on lui demande son sentiment, Sibel Chaker est moins réservée.
Oui, les pressions politiques et sociales, le climat de conflit permanent, les difficultés économiques peuvent affecter négativement l'état mental des Turcs. Le manque croissant de tolérance au sein de la société, le rétrécissement des espaces de débat et de créativité, c'est aussi ce que j'observe au quotidien chez mes patients. Sans compter que les Turcs ont subi des événements violents et traumatiques, des attentats à répétition à la tentative de putsch.
La députée Aylin Nazlıaka, qui avait réclamé les chiffres sur l'état mental des Turcs, demande plus de démocratie, de justice et de paix comme seul remède à ce qu'elle nomme une dépression généralisée. Aux sceptiques, elle brandit un autre chiffre.
Après le coup d'État de 1980, l'état d'urgence avait duré 9 ans. C'était une période très dure et pourtant le nombre de limogés pendant ces 9 années ne représentait qu'un huitième du nombre de limogés depuis la tentative de putsch de 2016. Toujours pendant ces 9 ans, 43 personnes limogées se sont suicidées, alors que nous sommes déjà à 38 suicides depuis le 15 juillet 2016. Et ce ne sont que les cas rapportés par la presse. Le putsch militaire manqué, puis le coup d'état civil qui a commencé avec l'instauration de l'état d'urgence, n'ont fait que polariser davantage la société. Des dizaines de milliers de personnes ont été renvoyées ou emprisonnées sans raison.
Mehmet Cemil Ozansu, l'enseignant limogé après la tentative de putsch, a trouvé son propre remède. Mais il admet qu'il est difficile à reproduire.
Je suis tombé amoureux au moment de mon limogeage. Ça m'a beaucoup aidé à surmonter cette période. Je suis peut-être le plus chanceux de tous les limogés.
Il n'est en tout cas pas le dernier. Le régime d'état d'urgence en vigueur depuis près de 15 mois a toutes les chances d'être prolongé pendant de longs mois encore, voire même quelques années. De quoi installer le pays dans ce qu'un chroniqueur turc a appelé un état d'urgence mentale.
Curieux projet que celui de Francesco Lotoro. Ce musicien italien qui vit dans les Pouilles s'est donné un défi incroyable, retrouver toute la musique qui a été composée dans les camps de concentration. Un but qui correspond aussi à un cheminement intérieur, puisque né catholique, Francesco Lotoro s'est converti au judaïsme. Son portrait est signé Cécile Debarge.
S'il fallait imaginer la musique composée par les prisonniers d'Auschwitz ou Birkenau, les anciens camps de concentration nazis, peu sont ceux qui penseraient à du swing, du jazz, des opérettes ou des musiques de cabaret. Pourtant, parmi les plus de 4000 partitions récupérées à travers le monde par Francesco Lotoro, la plupart résonnent comme un appel à la vie griffonné en quelques notes par leur compositeur. Francesco Lotoro, lui, a 49 ans, il est pianiste concertiste. En 1990, il joue une sonate du musicien tchèque Gideon Klein, enfermé à Térésine jusqu'à sa mort. En découvrant qu'elle a été composée dans le camp de concentration, il est sans voix. Depuis plus de 25 ans, il a fait de cette découverte une mission, celle de rassembler toute la musique écrite dans tous les camps de concentration du monde et pas uniquement la musique hébraïque.
Des petits camps de la Mandchourie pour les Japonais, ou camps coloniaux en Asie ou en Afrique, c'est comme un immense testament écrit à plusieurs mains.
Ce qui fascine Francesco Lotoro, c'est la liberté et la force de vie qui émanent de ces musiques, alors même qu'elles ont été écrites dans des conditions épouvantables. Car ironie du sort, plusieurs camps de concentration avaient leurs propres orchestres pour le divertissement des officiers nazis et certains d'entre eux fournissaient même des partitions vierges aux compositeurs.
Quand ils n'y en avaient pas, ils utilisaient des cahiers, ils faisaient des pentagrammes, ils utilisaient même le papier toilette.
L'œuvre la plus incroyable est probablement celle du musicien Rudolf Carrel. Son opéra en 5 actes a été entièrement écrit sur 240 feuilles de papier toilette avec des bouts de charbon. Sa musique, comme celle de tant d'autres, serait restée une suite de notes jamais jouées si Francesco Lotoro ne les avait pas interprétées une par une avec son orchestre de musique concentrationnaire. 24 CD ont déjà été enregistrés et les prochains le seront dès que ses finances le permettront.
Pour que vive la musique des camps est un film documentaire d'Alexandre Valenti. La musique interprétée par Francesco Lotoro est à retrouver sous le label Musikstrasse KZ Musik. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. À demain.